Chapitre 36. Ce même jour, à l'heure du dîner, Jehan le Brave avait emmené Carcagne, Escargasse et Gringaille au cabaret. Il voulait leur offrir un dîner qui, dans son esprit, était un dîner d'adieu. Malgré les manières rudes qu'il affectait à leur égard, l'affection qu'il leur portait était réelle. Ce n'était pas sans un secret déchirement qu'il s'était résigné à se séparer d'eux. Les trois ignoraient l'intention de leur chef. En conséquence, ils se livrèrent à la bombance et à la joie, sans contrainte et sans arrière-pensée. Jehan, pour ne pas les attrister, s'efforça de se montrer gai et insouciant. Lorsque le repas terminé, ils se trouvèrent dans la rue, les trois braves étaient fortement éméchés. Jehan, qui s'était montré plus sobre, avait tout son sang-froid. Avec une émotion qu'il ne parvint pas à maîtriser, il leur dit alors « Mes braves compagnons, nous ne pouvons plus vivre ensemble de notre vie d'autrefois. Il faut nous séparer. Tirez à droite, moi je vais à gauche, et que Dieu vous garde. » Et il voulut s'éloigner. Mais les trois, comme s'ils n'avaient rien dit, demandèrent « Les ordres, chef !» Ils n'avaient pas compris. Cependant, leur gaieté était tombée. Ils pressentaient que quelque chose de grave et de douloureux allait se décider. Jehan ne voulut pas les quitter sur un malentendu. Il dit avec douceur « Je n'ai plus d'ordres à vous donner. Je ne suis plus votre chef. Comprenez-vous? C'est fini entre nous. Il faut nous dire adieu et pour toujours. » Ils se regardèrent effarés. Ils étaient livides. Leur commencement d'ivresse était tombé d'un coup. Et brusquement, ils éclatèrent un accent douloureux. « Alors, vous nous chassez? Qu'est-ce que nous avons fait? Que voulez-vous que nous fassions sans vous ?»« Je ne vous chasse pas, » reprit Jehan avec la même douceur. « Je n'ai rien à vous reprocher. Mais il faut nous séparer quand même. » Maintenant, ils comprenaient. Après la douleur, ce fut l'indignation et, pour la première fois, la révolte. « Pourquoi nous séparer, corne de Dieu ?» rugit Gringaille. « Quand on condamne les gens, on leur dit au moins pourquoi. »« C'est vrai, » appuyèrent les deux autres. « Pourquoi ?»« Parce qu'avec le nouveau genre d'existence que j'ai résolu d'adopter, si vous restiez avec moi, vous risqueriez fort de crever de faim. » Ils se regardèrent, ébahis. De nouveau, ils ne comprenaient plus. L'un après l'autre, ils demandèrent « Pourquoi crèverions-nous de faim ? N'avons-nous pas toujours ceci ?» Ils frappaient sur la poignée de la rapière. « Et ne trouverons-nous pas toujours de cela ?» Ils montraient un bourgeois et faisaient le geste de dévaliser. « Justement, » dit vivement Jehan, « c'est ceci que je ne veux plus faire. Ceci s'appelle voler. » « Voler ?» L'exclamation jaillit des trois bouches en même temps. Maintenant, l'inquiétude se lisait sur leur visage et ils avaient des airs de dire « Il est malade ?» Et Jehan, qui les comprit, s'écria avec violence. « Oui, vous ne comprenez pas. Comme vous, j'ai longtemps cru qu'il était juste et légitime de prélever sur le riche la part du pauvre. Je sais que j'ai été un voleur. Oui, un voleur, moi. Et je sens le rouge de la honte me monter au front à cette pensée. Et plutôt que de recommencer, j'aimerais mieux me couper le poignet et le jeter au chien. » C'était sérieux, hélas. Ils le comprirent cette fois, et ils s'effarèrent. Ce diable d'homme avait toujours des idées bizarres auxquelles ils ne comprenaient rien. Ils se consultèrent du coin de l'œil. Ils se virent d'accord. Puisque c'était son idée, il ferait ce qu'il voudrait. Il se ferait honnête, il se changerait en petit saint et claquerait du bec avec lui. Enfin, ils commandaient, ils obéiraient. C'était très simple et ils le dirent simplement. Jehan fut touché de leur insistance et de leur soumission, mais il se faisait un scrupule de leur imposer sa misère. Sans lui, les pauvres diables, dénués de scrupules, se tireraient toujours d'affaire. Il leur fit remarquer loyalement. « Bon, » dit Gringaille avec insouciance, « mourir de ceci ou de cela, il faut y passer quand même. » Et avec une gravité soudaine, « Quant à moi, si vous persistez à nous chasser, je vous donne ma parole que je vais de ce pas me jeter du haut du pont neuf, la tête à la première. » « Et moi de même, » firent les deux autres d'une même voix. Jehan s'était déclaré vaincu. Il avait été convenu qu'il continuerait comme par le passé à venir prendre ses ordres tous les jours. ils étaient à lui corps et âme plus que jamais. Et en attendant qu'il eût fait fortune, ce qui ne pouvait tarder, ils assureraient eux-mêmes leur pitance. Honnêtement, bien entendu, c'était juré. D'ailleurs, pour l'instant, ils étaient riches des libéralités de Concini. Bien nippés, bien équipés, un logis confortable, de l'or et des bijoux en poche. C'était plus qu'il n'en fallait pour attendre la fortune. Jehan ne se séparait d'eux que parce qu'il lui était impossible de les entretenir. Rassuré sur leur sort, il s'en alla bien tranquille, content, au fond, qu'il n'y eût rien de changé, bien résolu à les prendre à sa charge dès qu'il le pourrait. Escargas, Gringaille et Carcagne demeurèrent dans la rue, le regardant s'éloigner d'un œil mélancolique. Quand ils ne le virent plus, ils se regardèrent avec des mines graves. C'est que la situation leur paraissait telle. D'un commun accord, ils se dirigèrent vers leur logis. Ils éprouvaient le besoin de se concerter. En route, ils réfléchirent que la discussion donne soif. Ils achetèrent une petite cruche qui ne contenait guère plus de 6 pintes de certains petits vins clairés des environs de Paris. C'était un vin qui avait un petit goût de pierre à fusil et qui vous rappelait la langue pour lequel ils avaient un faible prononcé. La petite quantité de liquide qu'ils emportaient prouvait bien qu'ils étaient résolus à discuter sérieusement. L'un d'eux fit remarquer très judicieusement que boire sans manger est souverainement mauvais pour l'estomac. Les autres furent de cet avis. En conséquence, ils complétèrent leurs emplettes. Carcagne prit une noix qui lui parut agréablement juteuse. Escargas jeta son dévolu sur certains quartiers de porc piqués d'ail de mine fort appétissantes. Gringaille s'empara d'un joli jambonneau auquel il adjoignit un saucisson convenablement fumé. Ils s'aperçurent alors que pour un encas, c'était un peu trop. Pour un souper, au contraire, c'était un peu maigre. Ils n'hésitèrent pas. Ils ajoutèrent un respectable pâté de bécasse plus quelques tranches de venaison. Bien entendu, ils n'oublièrent pas une demi-douzaine de chapelets de pain tendre, bien croustillants et dorés. Pour compléter le tout, ils ajoutèrent 3 flacons de Vouvray, le vin préféré de Messire Jehan. Naturellement, pour accompagner dignement le Vouvray, il fallut ajouter un petit flan, plus quelques menus pâtisseries sans conséquence. Chargés comme des baudets, ils se hâtèrent vers leur logis. Ils habitaient rue du Bout du Monde. Cette rue touchait au rempart et allait depuis la porte Montmartre jusqu'à la rue Montorgueil. Comme de juste, ils logeaient sous les combles. Ce logis, qu'ils disaient des plus confortables, était un misérable taudis. Le mobilier se composait d'un grand coffre qu'ils laissaient au milieu de la pièce parce qu'ainsi il leur servait de table. Il y avait un banc en bois de pin et 2 escabeaux dont l'un était amputé d'une jambe. Dans un coin, 3 paillasses étaient posées côte à côte à terre. Elles étaient munies de couvertures, mais les draps brillaient par leur absence. Il y avait une grande cheminée. Elle était bien étonnée quand, par hasard, on y faisait du feu. Enfin, et ceci c'était la merveille, il y avait 2 lucarnes qui donnaient sur les derrières. Ce qui fait que, du haut de leur perchoir, ils découvraient des vergers, les remparts gazonnés et les fossés le long desquels s'étendaient des jardins, des guinguettes, des jeux. Un peu plus loin, ils voyaient la ville neuve sur Gravois, dont une partie, celle qui avoisinait la porte Saint-Denis, était alors couverte des ruines occasionnées par l'artillerie du roi lorsqu'il assiégeait sa bonne ville. Puis des marais, des vergers, des champs, des moulins, dont les ailes tournaient joyeusement. La campagne, enfin, et la campagne présentement fleurie et embaumée. Tout un merveilleux panorama des environs du Paris d'alors, dont, si fruste que fût leur nature, ils ne pouvaient pas ne pas sentir la beauté. Chez eux, ils étalèrent leurs provisions sur le coffre-table. Il n'y avait guère plus de 2 heures qu'ils avaient dîné. Mais ils venaient de subir une des plus rudes émotions de leur vie. Et on sait que les émotions ont le don de creuser. Il leur semblait que leur estomac était creusé à un tel point que jamais ils ne parviendraient à combler le trou. Ils s'installèrent et attaquèrent les victuailles comme s'ils eussent été à jeun depuis la veille. En même temps, ils tinrent conseil. De leurs observations réunies, ils tirèrent cette conclusion que Jehan devait être bien malade. Carcagne, qui avait failli se faire moine et qui avait de l'instruction, alla même jusqu'à dire qu'il le croyait possédé de quelque méchant démon qui s'acharnait à le persécuter. À son avis, quelques bonnes messes dites à propos suffiraient à expulser le démon. Ceci leur parut tellement évident à eux trois que, séance tenante, ils prélevèrent les fonds nécessaires aux messes. Et quant à nous, n'avons-nous pas toujours été d'honnêtes garçons, tripes du pape? À preuve, quelqu'un s'est-il jamais avisé de dire devant nous que nous étions des voleurs? Non, n'est-ce pas? Alors? Oui, mais c'est son idée. Alors? Il est à noter que la pensée ne leur vint pas de se dérober aux exigences de leur chef et de continuer leur genre d'existence habituel. Ils avaient promis. Ils se fussent crus déshonorés en manquant à leur parole. C'est très sincèrement qu'ils dressaient les plans pour devenir honnêtes, puisque Jehan le voulait ainsi. Ceci les amena tout naturellement à faire le compte de leur fortune. Ils trouvèrent qu'ils possédaient environ 400 livres, somme considérable. Ce n'était pas tout. Ils avaient des bijoux qu'ils avaient soutirés à Concini. Ils allèrent les vendre. Ils en tirèrent la somme de 2800 livres qui, jointes aux 400, faisaient 3200 livres. De quoi vivre largement toute une année. Mais... Gringaille avait une sœur, Perrette la Jolie, dont nous lui avons entendu parler. Perrette allait maintenant sur ses 17 ans. Elle méritait grandement son surnom, car elle était en effet idéalement jolie. Fille d'une ribaude et d'un truand, élevée Dieu sait comment, cette étrange fille ne s'était-elle pas avisée de demeurer honnête et de vivre péniblement de son travail? Frêle et délicate, elle s'était astreinte au dur labeur de la vendière. Avec un courage rare, une volonté extraordinaire, elle s'était gardée chaste, pure de toute souillure, sage comme ne l'étaient pas bien des filles de bonne bourgeoisie. On ne lui connaissait même pas d'amoureux. Elle en avait un cependant, c'était Carcagne, qui était profondément et sincèrement épris de la jeune fille. Carcagne était un truand, un mauvais garçon, un spadassin, un brave, un bandit enfin. Que pensez-vous que fit ce bandit amoureux? Il s'en alla trouver Gringaille, lequel, à tout prendre, était le chef de famille, et bonnement, honnêtement, il lui demanda la main de sa sœur. Nous vous avions bien dit que Carcagne était un simple. Vous voyez bien que nous n'avions pas menti. Gringaille transmit la demande de son ami en l'appuyant de toute son autorité. À sa grande stupeur et au grand désespoir de Carcagne, Perrette avait catégoriquement refusé le parti qui se présentait. « Elle ne se sentait aucun goût pour le mariage, » dit-elle. Sans se décourager, Gringaille était revenu à la charge avec acharnement. De guerre lasse, Perrette avait fini par dire qu'elle verrait plus tard dans quelques années. Force avait été à l'amoureux de se contenter de cette vague promesse. Dans son fort intérieur, tant les amoureux sont tenaces, il se considérait comme le fiancé de la jeune fille. Il s'avançait peut-être beaucoup. D'ailleurs, si réel et si profond que fût cet amour, il n'empêchait nullement Carcagne de bien boire, bien manger, bien dormir, de mener en somme une existence assez dissolue. Il pensait qu'il serait temps de se ranger et d'être fidèle quand ils seraient unis en justes et légitimes noces. Avait-il tort ou raison? Ceci n'est pas notre affaire. Quoi qu'il en soit, lorsqu'ils se virent à la tête d'une petite fortune, Carcagne se souvint à propos que Perrette était trop faible et délicate pour continuer son métier de lavandière. Son rêve était de posséder 1000 livres, avec quoi elle s'établirait, prendrait quelques ouvrières et se réserverait le lissage de la fine lingerie des nobles dames. C'était là un travail plus délicat, plus en rapport avec ses forces physiques et auquel elle excellait. Carcagne se souvint de tout cela. Il le rappela à Gringaille et proposa bravement de donner à eux deux 1200 livres à la jeune fille, avec quoi elle pourrait réaliser son rêve. L'idée parut admirable à Gringaille, qu'il accepta sans hésiter. L'argent fut aussitôt divisé en 3 parts. C'était leur manie, innocente au bout du compte. Escargas les vit prélever chacun 600 livres sur leur part et déposer le reste dans le coffre. Comme ils avaient les mines réjouies de gens qui se disposent à faire une bonne farce, il s'informa. On lui dit naïvement de quoi il retournait. Il arriva qu'Escargas se fâcha tout rouge et prétendit contribuer pour sa quote-part au bonheur de Perrette. Et il allongea lui aussi ses 600 livres. C'étaient 3 chenapans qui ne valaient pas la corde qui, un jour ou l'autre, les hisserait au haut de quelque maîtresse branche d'où ils se balanceraient pareils à des fruits monstrueux. De ce fait, Perrette la Jolie eut 1 800 livres au lieu des 1 000 qu'elle ambitionnait pour s'établir. Gringaille alla les lui porter sur le champ. Car cette fille, étrange et fière, n'eut pas accepté d'un autre que de son frère. De ce fait aussi, les 3 sacripants n'eurent plus que 1 400 livres. Mais bah ! C'était de quoi vivre tranquille 6 bons mois.